I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Parti. La deuxième partie, donc messieurs, qui commence avec un trade des Chicago Bears. Je me permets juste, je suis désolé, un petit rappel, c'est que l'émission et le direct de la draft vous est présenté par Wilson, le ballon officiel de la NFL, qui est avec nous pour cette période de draft. N'hésitez pas à retrouver toute la gamme sur decathlon.fr. Donc, messieurs, les Bears sont montés. Est-ce que la fin de l'ère Mitch Trubisky était déjà actée, hein, c'est pas nouveau. Est-ce que c'est le moment où on voit le prochain quarterback sélectionné, Justin Fields ou Mac Jones?
Ah ben ça paraît évident. Alors là, ça serait vraiment une énorme surprise, quoi. Mais ça paraît évident, et puis ça paraît surtout très 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 bien joué, hein, de la part des Bears. Vraiment, c'est chapeau. Cher,
c'est cher, hein.
Alors, est-ce que tu as la compensation, Victor? On t'écoute.
Oui. Apparemment, un cinquième de cette année, un first de l'année prochaine et un 4 de l'année prochaine.
Voilà. Oh, c'est pas si cher pour un quarterback, moi, je trouve. Hein.
Ouais. Grégory, je t'ai vu taper
ouais,
de la main comme ça.
On n'a pas réussi à négocier ça, nous. Putain, on est vraiment trop cons. Pardon.
Mais oui, c'est vrai que pour les...
C'était de la déception personnelle, d'accord.
Oui.
C'est un très bel échange.
Donc, en effet, 20e choix général pour les Giants, 5e tour, et puis ensuite un premier tour l'an prochain. Ok, très bien. Donc, oui, en effet.
1 et 4
l'an prochain. Très, très bonne opération des Giants qui descendent quand même un petit peu du coup dans cette draft. On va les retrouver en 20e position. Donc, ils ont perdu une bonne dizaine de places quand même. Donc, Justin Fields, on est unanime là sur le choix?
Vu cette draft, ils vont prendre Rashan Slater.
Attention, parce que les Bears, déjà, les Bears ont quand même 100 ans d'histoire et le meilleur quarterback, enfin, le quarterback le plus prolifique de leur histoire, c'est Jay Cutler. Donc,
c'est Smoking Jay.
S'ils ont une grande réussite au niveau à ce poste-là. Et vu qu'ils aiment bien les Nick Foles et les Andy Dalton, ils aiment bien les grands blancs eux aussi, apparemment. Donc, peut-être que Mac Jones va être le choix, mais Justin Fields, normalement, il ne peut pas tomber plus bas. Et c'est marrant, hein, tous les médias US disaient la vraie question, c'est 4 ou 5 quarterbacks dans le top 10. Hein. Finalement, on en a eu 3. Comme quoi.
Je vois tout le monde dire les grands blancs. Mac Jones, il fait 1m91, il n'est pas si grand que ça. Les grands quarterbacks blancs, ils aiment bien Nick Foles, etc. Mais il n'est pas si grand que ça, hein, 91.
Oui, mais Andy Dalton n'est pas si grand que ça.
Bon, après, la moyenne, c'est 90-95 hein, non plus. Hein, c'est pas.
Ah ouais, ils sont un petit peu un poil au-dessus.
Drew Brees a pris sa retraite, donc la moyenne
c'est remonté là.
Un petit quarterback, c'est 80-85. Quoi. À partir du moment où tu passes le 90, tu peux être considéré comme grand quarterback quand même.
Ok, Jean-Michel.
Juste avant le choix, là, j'aimerais dire une chose aussi aux amis qui nous écoutent, c'est qu'il y a aussi sur le site la version écrite, je viens d'y aller, de jeter un œil, et puis il y a Alexandre qui fait vraiment un boulot formidable, parce que non seulement il y a tout le récapitulatif de tous les choix, mais en plus avec à chaque fois un commentaire explicatif, donc n'hésitez pas à aller sur le site, vraiment, il ferait un très gros taf, force à toi Alexandre.
Tout à fait, je te rejoins, et encore plus alors qu'il est tourneboulé ce soir par les rumeurs sur Aaron Rodgers, donc voilà.
C'est vrai.
Double big up.
C'est vrai, et j'en profite, tiens, comme c'est deuxième partie du podcast, pour rappeler juste avant que Roger arrive, il est en train d'arriver sur le podium, Alexandre Foy, Eliott Salmon, Mathieu Pasquier sur le site, Sébastien Polomeni sur Twitter et Tiffany Amis sur Instagram. Merci à toute l'équipe du site, évidemment, on le rappellera jamais assez. Roger Goodell arrive sur le podium, un petit fist bump avec quelqu'un qui est là, et il va annoncer le choix des Chicago Bears. Ah, alors d'abord il y a un petit instant draftathon, visiblement on parle un petit peu pandémie, etc. J'ai coupé le son, hein, parce que là, moi, dans ma tête, Roger Goodell est en train de dire « Alors, pendant que nous, on s'éclate, les Français, ils sont toujours en galère. Qui veut un vaccin? Tenez, j'en ai un, je le jette à la foule. Ouais, tenez, injectez-vous des vaccins. » Bref, on attend toujours que ce soit Justin Fields. Vous aviez qui sur les mock drafts, du coup, pour les Bears?
Alors, en 20, j'avais Eichenberg. Hein, donc,
alors, ouais, en 20, c'est loin, ouais.
Sur ma draft, ah, t'avais Eichenberg. Ah,
oui, oui.
Dis donc, tu sais me séduire. Moi aussi, j'avais Eichenberg.
Moi, j'avais Tevin Jenkins.
Par contre, dans la mock que j'avais fait avec Trade, je les avais vus Trade, mais du coup, il n'y avait plus que Mac Jones, donc ils tradaient pour Mac Jones.
Jean-Michel, tu avais qui pour eux en 20?
Tevin Jenkins.
Tevin Jenkins, ça marche. Et par curiosité, vous aviez qui en 11 du coup?
Micah Parsons.
Micah Parsons. Oui. Bon, tout le monde avait Micah Parsons. On est dans le petit instant promo donc des actions de la NFL. On prend le
il
temps.
Il descend un peu Micah Parsons aussi, hein, si je peux me permettre. Hein. C'était pas annoncé comme un top 10 sûr, mais il y avait toujours des incertitudes vu le niveau du bonhomme. Pour l'instant, il n'est pas sorti. Hein.
Alors, c'est pas Roger qui va annoncer visiblement. Alors, avec le 11e choix de la draft 2021, les Chicago Bears choisissent Justin Fields, quarterback d'Ohio State. Une nouvelle ère s'ouvre pour les Chicago Bears. Trubisky, c'est fini. Fold, c'est fini. Ils avaient fait venir Andy Dalton, à qui ils ont promis d'être titulaire. Est-ce que
il sera peut-être titulaire quand même. Hein.
Voilà, c'est ma question. Mm. Est-ce qu'il est quand même titulaire, Andy Dalton? On lui a promis. Est-ce qu'il est titulaire, Grégory?
Oui, je pense qu'il le sera, au moins pour les premiers matchs. Il jouera les deux premières semaines et puis après.
Alors voilà, combien de temps après?
Bon, écoute, tout dépendra du comment ça s'appelle, de l'acclimatation de Justin Fields à la NFL, mais encore une fois, je trouve qu'on a été un peu sévère sur son cas pendant le processus draft. Je pense qu'au pire des cas, il y aura peut-être besoin d'une moitié de saison pour déboulonner Andy Dalton. Je pense pas non plus qu'il y ait besoin de. Enfin, en tout cas, le Andy Dalton actuel, hein, voilà, qui a pu faire des bonnes choses à Cincinnati. Maintenant, même si à Dallas, il n'a pas démérité, bon, je pense que tu en attends plus que Justin Fields, sachant que Dalton, pardon, a été signé pour un an seulement.
Bon, Fields, je m'embrouille avec le chat. Fields en couveuse, dit Michael Jordan. Victor, est-ce qu'il sera en couveuse pendant combien de temps?
Oui, alors, je finis juste au niveau des remerciements. Jean-Mi a parlé d'équipe, en effet, Lucas, Mathieu, Alex. J'ajoute les graphistes et les réseaux sociaux avec Romain et Sébastien qui font aussi un énorme taf.
Mes excuses à Romain que j'avais oublié, en effet, tout à l'heure. Et Xavier.
Et Xavier aussi. Et donc, oui, alors, Justin Fields, moi, clairement... c'est un quarterback que je pense NFL ready. Donc, dans une autre équipe, ça ne m'aurait pas choqué de voir titulaire en semaine 1. Au Bears, bon, il y a Foles, il y a Dalton. Franchement, il peut même attendre un an que ça ne me choque pas. Vu ce qu'il y a autour, enfin, vu la ligne, vu les receveurs, vu la tête de l'attaque des Bears, peut-être qu'il serait bien mieux à rester un an sur le banc et à venir en 2022 quand ils auront essayé de renforcer un peu tout ça. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas... pour moi, il est prêt, mais ça ne fait jamais de mal d'attendre une demi-saison. Surtout que Nick Foles et Andy Dalton ne sont pas connus pour être des mecs… alors, peut-être qu'un des deux va dégager, mais ce que je veux dire, c'est que c'est connu pour être plutôt des mecs, des bons mecs, quoi. Donc, ça ne va pas être… ça va pas. Je pense que le vestiaire sera quand même dans une bonne ambiance. Donc, oui, je pense qu'il va évoluer dans un bon contexte.
Jean-Michel, je suis désolé, il est 3h47 du matin, vous voyez ma température corporelle commence à baisser, j'ai enfilé le sweat, donc je m'embrouille dans les prénoms. Jean-Michel, Justin Fields, est-ce que tu le vois en titulaire direct, est-ce que tu le vois couvé par les deux autres, combien de temps pour toi avant qu'il prenne le pouvoir?
Oh, ça serait bien de le laisser au moins la moitié de la saison, moi je pense, pour qu'il s'ajuste au niveau de la NFL à cette nouvelle exigence. Mais tu vois, si tu me permets de faire une ouverture, puisqu'ils en ont déjà très bien parlé tous les deux, c'est que là, avec Justin Fields qui est parti aux Bears, finalement, on se demande que vont faire les Patriots, parce qu'on sait très bien que les fans des Patriots, ils voulaient soit Justin Fields, soit Trey Lance, et surtout pas Mac Jones. Finalement, il ne reste plus que Mac Jones de disponible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on a d'abord le choix des Cowboys, des Chargers,
moi,
et des Vikings.
Moi, je me dis,
mais...
pourquoi ils n'échangeraient pas avec les Cowboys? Les Cowboys, si vous voulez un cornerback, sortez, on est parti, on est parti. Je vois qu'ils ont pick easy.
Alors, ouais, mais et puis il y a un truc, c'est que moi, tout à l'heure, je ne sais plus sur quel joueur tu disais, oui, mais c'est les supporters qui s'ambiancent plus, etc. Mais est-ce que les Patriots veulent vraiment choisir un quarterback? C'était déjà la même chose l'an dernier. Ils vont prendre un mec au premier tour, ils vont prendre un mec au premier tour, ils vont prendre un mec au premier tour.
Belichick, on ne sait jamais ce qu'il veut. Donc,
c'est ça. Bien. Donc, pour autant qu'on sache, il va prendre un tackle en 15. Mais ou Micah Parsons ou ce que vous voulez, j'en sais
ou
rien.
Un pass rusher, ou oui, voilà. Effectivement, il peut faire le même coup que l'année dernière.
Mais je vois pas pourquoi ils prendraient automatiquement. Ils vont monter, on les voit jamais monter ou quoi que ce soit. En général, ils descendent. Je serais même pas étonné qu'ils descendent avec le 15. Donc, en tout cas, c'est une question qui se posera bientôt, hein, les Patriots 115. Là, on est au 12 avec Dallas et le choix est déjà fait pour Dallas. Donc, ils ne bougeront pas. Eux, quarterback, ils ont ce qu'il faut. Ça, c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'ils vont prendre alors, ces Cowboys? Il y a des besoins, hein, notamment en défense, où ça a quand même été relativement open bar la saison dernière. La ligne offensive commence à avoir besoin de renouvellement, alors que c'était une très grosse force par le passé. Vers où vous iriez, messieurs Grégory?
À titre personnel, j'irai sur un edge rusher. En 12, ça peut paraître haut. J'aimais bien la possibilité Quitty Paye, mais je ne sais pas si c'est ce qui sera privilégié par Dallas. Après, en effet, tu parlais de la O-line. Rashawn Slater, en plus, est un joueur extrêmement complet qui peut dépanner sur beaucoup de positions, au moins dans un premier temps. Donc, ça pourrait laisser éventuellement cette variable d'ajustement, si je peux parler ainsi. Je ne suis pas totalement rassuré sur le poste de linebacker non plus, avec Avant Derech qui, je trouve, accumule un peu les pépins physiques ces dernières années. Peut-être Micah Parsons encore une fois, mais bon, en priorité la défense, mais c'est vrai que je ne suis pas surpris par la O-line.
Oui, Van Der Esch en effet inquiète au niveau de la santé. Jalen Smith, c'est très inégal cette saison. Le plus gros potentiel défensif, c'est Parsons. Après, ce n'est pas forcément le poste où ils ont le plus besoin. Donc, ils ont besoin de safety, mais Trevon Merrick, c'est peut-être un tout petit peu haut. Ils ont besoin de cornerback. Est-ce que Newsom, c'est pas un petit peu haut aussi, ou Farley? En effet, moi, je pense que le plus probable, c'est Edge. C'est Edge. Alors, ça peut être Jaden Phillips, Quitty Paye ou autre.
On va être fixé tout de suite parce que... alors on est reparti sur la promo NFL. Alors, excusez-moi. J'ai pris de l'avance. Je croyais qu'il allait envoyer le choix. Et non, pas tout de suite.
Tu vois qui, Jean-Mi, toi?
Jean-Mi, vas-y, ouais, du coup.
Jerry Jones, il aime quand même bien les choses un petit peu sexy. Hein. Donc, pour moi, ça serait Micah Parsons. Hein.
Micah Parsons, ouais, ça pourrait être vrai.
Ah, Micah Parsons qui va aller dans les soirées de Jerry Jones poser son fibre sur n'importe qui. Ça va être
désolé. Alors, sans rentrer dans le graveleux, pourrait-on m'expliquer cette anecdote? Parce que je l'ai vu circuler cet après-midi.
En fait,
Essayons de rester dans des termes. Oui. Mainstream, dirons-nous.
Micah Parsons et Yetur Gross-Matos sont accusés d'avoir harcelé certains de leurs coéquipiers à Penn State en leur faisant subir quelques humiliations.
Voilà. D'accord.
Donc, c'est un mec sympa. Alors, on a le choix. Avec le 12e choix, les Cowboys choisissent Micah Parsons. Wow, elle est très énervée, la dame qui l'annonce. Micah Parsons de Penn State. Donc, visiblement agresseur sexuel à ses heures perdues, si j'ai bien compris. Micah Parsons, en dehors de son pédigré peu reluisant hors terrain, qu'est-ce qu'il va apporter donc à Dallas sur le terrain? Victor, je te laisse, vu que tu étais lancé.
Bon, agresseur sexuel, on passe jusque-là, mais disons, jeune un petit peu con. Écoute, moi, je dans ce système Cowboys, là, je me pose la question. Comment ils veulent l'utiliser, ça va être une grosse question d'intersaison. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on avait du coup Van Der Esch et on avait Smith. On avait un côté un peu assurance. Là, il y a l'arrivée de Kenyon Hill où on se demandait comment ils allaient être placés, etc. Là, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on ne va pas avoir un cut ou un transfert de Jaden Smith dans les prochains jours? Ça pourrait peut-être arriver. Après, Micah Parsons est un joueur ultra polyvalent. Donc, il peut être utilisé de plein de manières. Donc, peut-être qu'il va plutôt être utilisé comme un edge dans un premier temps. Ce n'est pas inenvisageable. Ou alors, carrément, ils vont avoir un système avec trois vrais linebackers qui ont chacun une tâche et ils vont construire la défense comme ça. Mais c'est très intéressant et clairement, c'est le plus gros potentiel défensif de cette draft. Donc, pour moi, c'est un bon choix pour les Cowboys.
Il est juste parfait dans leur système de Dallas, en fait, je trouve. Micah Parsons, vraiment dans une 43 comme ça, il est juste parfait. Tu le mets à l'extérieur dans la 43, il peut faire du blitz, il peut déborder à l'extérieur parce que c'était un pass rusher au lycée. Alors, il ne sera pas pass rusher à NFL, il n'a pas le gabarit, mais sur séquence, il peut le faire. Il défend la course, il va très vite, il peut même défendre les tight ends. Et je pense que c'est un très, très bon choix. Et d'ailleurs, c'est un choix que j'ai annoncé, donc je te reprends un point, Victor.
Que tu as annoncé, c'est-à-dire Dans ta mock, tu as Micah Parsons ?
Ben non, je l'ai dit juste avant la sélection. Je l'ai bien dit, Micah Parsons, tu m'as entendu.
Oui, mais c'est les mocks qui comptent les points, non ?
Allez, ça va.
Ah oui, oui, non, c'est les mocks.
Mais par contre, oui, non, je suis d'accord que tu nous as, battus sur cette, ce choix.
Grégory, Micah Parsons à Dallas.
Ouais, ouais, bah, pour compléter ce que disait Jean-Michel, ouais, je ne serais pas étonné qu'on parte peut-être plus sur une 33, par exemple. Avec Lawrence qui serait peut-être plus chargé du pass rush en priorité sur le premier rideau et Micah Parsons qui serait un espèce d'électron libre sur le deuxième, capable en effet de rusher, de courir, de faire pas mal de choses. Pour rejoindre ce que disait Victor, ça confirme que j'étais pas sûr et certain du fait que Keanu Neal passe linebacker, même s'il peut avoir ses trous d'air en safety, je pense qu'il va repasser en strong traditionnel. Ouais. Ouais. Et voilà, après, bon, on peut juger la qualité du backfield défensif de Dallas. Alors où on se parle, mais là ils n'avaient pas non plus une latitude énorme avec le 12e choix. Donc voilà, ça améliore quand même la défense, ça améliore d'un front seven qui a quand même été pas mal en galère l'année passée. Donc voilà, c'est déjà ça, mais il y aura d'autres besoins à considérer bien entendu pour améliorer cette défense texane.
Petite aparté technique, je remercie Camille Sarabène parce que le top 10 de la draft est déjà disponible sur les plateformes de podcast en replay. Je tiens à le dire, c'est quand même de la rapidité incroyable. On est au 12e choix et il est déjà sur Spotify, Apple Podcast, tout ça. Comme d'habitude, les trois parties en replay, on le dit, s'il est 3h55, si vous devez aller vous coucher pour le taf ou quoi que ce soit, l'intégralité évidemment de cette émission sera disponible en replay. En trois parties, comme d'habitude, le top 10 d'abord, les choix 11 à 21 ensuite et le 22-32 pour terminer. Donc, c'est déjà dispo et on vous rappelle, on est disponible maintenant sur Amazon Podcast en plus de toutes les autres plateformes. Les Chargers sont sur l'horloge, ils ont déjà un quarterback largement et ils pourraient bien avoir besoin de le protéger éventuellement. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un très bon tackle qui s'appelle Rashawn Slater. Est-ce que c'est le moment où il part ? Je vois que ça opine du chef, Jean-Michel.
Oui, oui, ça paraît le choix évident. Mais bon, ce soir, on a bien vu que les choix évidents, c'est pas ce qui se passe. Mais sinon, oui, ça paraît le choix évident, oui.
Est-ce que c'est si évident que ça par rapport au jeu qui va se développer ? Est-ce que, par exemple, un Dariso correspond pas plus aux besoins ? Encore une fois, là, on a besoin d'un left tackle. Moi, je prendrais 7 heures, clairement, mais je pense qu'il peut y avoir un débat 7 heures Dariso.
Débat pour toi, Greg ?
Moi, je préfère Dariso. Maintenant, l'opinion globale s'oriente plus vers Slater, surtout que sur l'intérieur de la ligne, tout n'est pas non plus totalement rassurant. Matt Filler, ça peut combler un besoin. Je suis moins emballé par Odey Abushi, par exemple. Donc, pourquoi pas, encore une fois, Slater qui pourrait apporter cette polyvalence, voir ce profil de tackle gauche. Encore une fois, c'est un joueur extrêmement... technique, intelligent dans son placement. Donc voilà, je pense qu'il ne fera pas tâche pour protéger efficacement Herbert. Mais à titre personnel, je préférerais Dariso, mais je serais très surpris en effet que ce ne soit pas un tackle gauche, vu l'effectif relativement complet malgré tout avec lequel composent les Chargers aujourd'hui.
Il y a Degan qui dit perso, je reste voir les Pats avant le dodo. Penny State, très belle cravate Jean-Michel pour Robin, je vous fais un petit point de chat quand même parce qu'il y a toujours beaucoup de monde, 550 personnes à 3h57 du matin, c'est merveilleux. Il y a George Kittle, tiens, sur le chat qui est là aussi, très très cool de voir qu'il suit avec Michael Jordan la draft depuis les États-Unis, qui dit et en plus alors George Kittle dit tu es un tueur Victor avec des cœurs dans les yeux. Donc, donc Victor, tu as des fans, hein, il faut le dire. Je regarde un petit peu, bon, ça débat un peu sur Parsons, on ne va pas refaire le débat sur les accusations, on va essayer de rester positif. Oui, ça attend beaucoup les Patriots. Hein. Nous, pour l'audience, il faut que les Patriots se trade down à chaque fois pour que les gens restent jusqu'à 32. Hein, on va pas se mentir.
Et surtout, ils vont trade down au second tour derrière. C'est l'année dernière où ils ont fait ça. Les fans des Patriots ont attendu toute la nuit pour finalement qu'ils trade down.
Bah ouais, on pense à Mehdi dans notre équipe qui avait fait une nuit blanche pour rien notamment et qu'on salue. Il avait beaucoup attendu ce choix de New England. Bon, c'est l'avantage hein, maintenant. Quand ton équipe a beaucoup drafté en bas, maintenant tu as moins longtemps à attendre quand elle est un peu moins forte. Il faut aussi qu'il y ait des avantages à perdre Tom Brady et à ne pas faire les playoffs.
L'avantage d'être fan des Texans, c'est que tu dors bien.
Ah oui, alors attention, hein, quand tu es fan de Texans, Jaguars, Bengals, tout ça, en général, tu te mets bien niveau sommeil. Ça, c'est, parce qu'en général, ça joue à 19h et ça draft à 2h. Donc, tu peux préserver tes heures de sommeil. Magnifique pub sur NFL Network avec un nain de jardin qui fait du canoë. Je ne sais pas de quoi on parle, mais on attend en tout cas le choix des Los Angeles Chargers. Dites-nous un peu, tiens, où vous êtes sur le chat. J'aime bien faire ça quand on est sur le fauteuil. Le choix a été fait du côté des Chargers. On attend Roger Goodell.
Ils sont devant leur écran, Alain.
Ah, elle est bonne celle-là. Non, j'aime bien savoir où ils sont aux États-Unis, parce que justement partout dans le monde. Mais non, mais parce que il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit qu'il prenait son petit-déj, je crois qu'il était en Thaïlande. Et à chaque fois, en fait, on a des localisations assez incroyables, je trouve. Tiens, voilà, 16h ici à Tahiti, et en attente du 30e choix des Bills pour Julien. Je suis jaloux, à Tahiti, il doit faire super beau. Alors, vous êtes où? Pareil, à Nancy Plage pour Cyril. Dans le canapé, à Linz, en Autriche, pour DJ Cognier. Vous voyez qu'il se passe, il y a toujours des trucs incroyables. Atlanta pour Alexandre, tiens. Lyon pour Mathias. On est dans ta tête, dit Tristan, évidemment. Bonjour à Tristan, d'ailleurs, un de nos rédacteurs. Dans mon lit à Paris pour Gus, à Lille pour Bertrand, Corocopel, c'est à Lyon, Béziers pour Kilvia, Paris 18, Bordeaux, Arcueil, Toulouse, Paris, l'Île-de-France, Nantes, Morlaix, Finistère. C'est loin, classe. Toulouse, Marseille, il y a beaucoup de monde. Hein. Je suis dans ta salle de bain de Alain, mais je me fais discret, Dayan, ok. Dans le 78, Tunisie, Avignon, 22h au Canada pour Jean-Gabriel, 11h à Yokohama pour Anthony. Vous voyez, il y a même des gens au Japon. Je suis d'une jalousie extrême au moment où on se parle. Benjamin est à Madrid, Kiki Stardust à Maison Alfort, Chambéry pour Pascal, Cannes, Belgique pour Titouan, à côté de Nantes, dans le 78, Singapour pour Stéphane, Québec pour Simon-Pierre. Il y a du monde de partout, c'est génial. Séjour et au Havre, Nantes, les Yvelines, Paris 15e. Flo qui dit je suis à moins de 10 km de chez moi, promis. 22h à Montréal, à Beaune, Toulon City, en Kabylie, à Alger pour Younes, en Gironde pour Vincent, Saumur, Vancouver Canada pour David, Paris 13 Corona District pour Clément, entre Boston et Foxborough pour Vincent, Longueuil Québec pour Le Moule Massif, la Belgique, Dijon, Montréal, il y a plein de Québécois. 9h à Saignon. C'est où c'est... Ah non, Saigon. Ah oui, donc oui, Los Angeles actuellement, Cadillac 33, Strasbourg, à Tallinn en Estonie pour Hugo,
eh ben.
Lausanne, Valenciennes, Agen, Rouen pour Félix. Bon, ben voilà, il y a du monde, Valence. Il y a du monde partout en France et dans le monde. Merci, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien faire ce petit tour du monde à chaque fois, près de Reims, à Charlotte. Regardez, pour Michael Jordan, évidemment. Michael Jordan est à Charlotte. Et sur ce, on va aller sur le choix des Chargers, messieurs, avec le 13e choix de la draft. Les Chargers choisissent Rashawn Slater Jr. Northwestern. Donc pas de surprise, voilà, ça lève la main, c'est du logique Jean-Michel.
Ah ben oui, tout à fait, moi je trouve, contrairement à Vitan qui pensait que c'était Darisso, mais sinon oui, Rashawn Slater c'est très logique. Ouais. Bon, comme le disait Greg, c'est un joueur qui a été recruté comme un guard, donc il peut jouer à l'intérieur. C'est un joueur qui se donnait freshman à jouer tackle droit, et puis ensuite il est passé tackle gauche. Donc en fait, il sait tout faire, donc pour un quarterback comme Justin Herbert, c'est juste parfait. Alors c'est vrai qu'il est très très bon pour le jeu de course, mais il est bon aussi en protection. On l'a vu en 2019, tout le monde se rappelle de son match contre Chase Young, c'est pas n'importe qui Chase Young, et il avait dominé Chase Young au niveau universitaire, donc c'est vraiment un très très bon choix.
Alors très, vu, très la, bon choix, vu ce que je pense de Darisso, on passera le rewind, hein, mais clairement il y a de la diffamation, parce que j'ai dit que ça pourrait être Darisso, mais que clairement le bon choix était Slater. et Slater est un bon choix, mais je comprends, à ton âge on a des pertes de mémoire, c'est pas grave. Mais globalement, je pense que voilà, Rashawn Slater, c'est clairement la pièce manquante. Et Justin Herbert va être très content. Et les coureurs vont être très contents aussi, parce que quand il s'agit d'avoir des mains violentes et de créer des espaces pour le jeu de course, il va être là. Et rappelons toujours que le quarterback a besoin de protection, oui. Mais il a besoin d'un gros jeu de course, parce qu'un gros jeu de course, ça soulage aussi un lanceur. Donc, clairement, là, c'est gagnant sur tous les fronts.
Gagnant sur tous les fronts, Grégory, tu es d'accord ?
Oui, bon, bah, écoute, moi, je préfère
Oula,
l'Arisso, mais
oula.
non, je le dis, j'ai du mal à m'enflammer sur Rashaan Slater, mais je ne remets pas en cause le talent du bonhomme, très clairement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un QI foot qui a l'air quand même supérieur, peut-être, je pense, le meilleur QI foot de la QV de tackle, à mon sens, mais ouais, je sais pas, peut-être que c'est le fait, en effet, de... On a beaucoup insisté sur cette prestation contre Chase Young, à raison, hein, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde de maîtriser globalement Chase Young sur un match. Mais ouais, enfin, ça reste un joueur qu'on n'a pas vu du coup en 2020 de par son absence. Et ouais, je trouve qu'on a beaucoup accentué ce fait-là au détriment d'autres choses. Sur le pass pro, il n'a pas non plus des références extrêmes, sachant qu'il joue dans une conférence où on court beaucoup. Donc voilà, après, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, voilà, il va clairement apporter, notamment sur le jeu au sol. Il y a des très très bons acquis et je le répète, un bon sens du placement qui lui permet notamment de pouvoir performer dans les deux secteurs. Après, c'est des questions de goût et de couleur, mais je ne suis pas sûr que les Chargers soient forcément perdants en récupérant ce joueur.
On a donc les Minnesota Vikings qui sont passés sur l'horloge, messieurs. Là, je suis en train de me remettre à jour. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug d'écran. Il pourrait y avoir un échange dans les tuyaux. Attention,
Échange de
attention. Et oui,
Washington,
échange.
Washington.
Les Jets.
Et c'est une remontée,
Non.
ouais. C'est une remontée. Les Jets. Les Jets
Oh.
remontent à la 13e place. Là, ça
14e.
commence à la 14e, pardon. Les Jets donc remontent à la 14e place, à la place des Vikings. Mais qu'est-ce qui se
Oh, les
passe?
oufs, ils vont prendre deux QB au premier
Oui,
tour.
pour essayer de la faire à l'envers aux
C'est
Patriots, c'est ce que je pensais. Je me disais, est-ce qu'ils prennent deux QB comme ça? Ils sont bien. Les Jets, 14e. Alors là, ça commence à devenir très intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec les Jets et pour qui ils pourraient remonter? Parce que là, ça commence à brouiller les cartes. Grégory, je te vois très interrogatif. Jean-Michel, tu as l'air plus inspiré.
Connaissant Joe Douglas, le général manager, moi je penserais que c'est pour un joueur de ligne offensive. Il reste Christian Darrisaux, il reste Tevin Jenkins à droite, il reste peut-être même Elijah Vera Tucker pour mettre à l'intérieur. J'irai vers cette piste-là parce que sinon ils auront surtout besoin d'un cornerback, mais les deux meilleurs sont déjà partis. Un pass rusher, ils en ont besoin aussi. Il n'y en a aucun qui est sorti pour l'instant, donc c'est encore possible. Mais moi j'irai sur la ligne offensive, je pense que c'est pour un lineman.
Lineman.
Peut-être qu'ils adorent Forlay aussi, hein. Encore une fois, moi, ces problèmes de dos pour Forlay, c'est toujours la même chose. Alors, son agent, forcément, joue son rôle et dit que des échos qu'il a, il sera drafté dans le top 20, alors qu'on entend plus des échos de deuxième tour le concernant, par rapport à cette donnée qui, forcément, est quand même un peu problématique, surtout quand tu es censé être un joueur physique qui va jouer sur de la presse. Des problèmes de dos, c'est pas ce qu'il y a de plus anodin. Après, ouais, j'avoue que là, juste après la sélection de Slater, ça peut laisser entendre en effet qu'on veut protéger efficacement Zach Wilson et qu'on veut ou mettre Darisso peut-être à droite dans un premier temps ou éventuellement, comme tu dis, prendre Vera Tucker et ce qui ne serait pas en soi un mauvais calcul parce que je ne suis pas non plus emballé par la ligne intérieure des Jets où pour l'instant c'est plus des joueurs de rotation, je trouve, qui la composent que des vrais titulaires aboutis.
Le choix est fait. En tout cas, on attend Roger Goodell. Victor, tu as manqué un échange puisque les Jets
Non, non,
montent.
je suis revenu il y a une minute, j'ai vu un peu, j'ai laissé Grégory finir. Moi, je pense Tevin Jenkins. Moi, je pense qu'ils veulent, parce que pour moi, c'est vraiment le. Enfin, clairement, les Jets, on l'a dit, ils ont leur left tackle, ça c'est clair. Et pour le coup, autant j'aime bien Darisso, autant si tu me parles tackle droit, moi je veux Tevin Jenkins. Pardon, ou Liam Eikenberg. Mais par contre, non, mais clairement, non, mais clairement, qu'on soit clair, un trade-up, je ne pense pas que ça soit pour Eikenberg.
Ou
Pour moi,
Samuel Cosmi.
ouais, alors Samuel Cosmi, je vois plus à gauche aussi, mais oui, ça peut être Cosmi, tout à fait. Ça peut être Cosmi, ça ferait sens aussi. Mais si je dois mettre une petite pièce, clairement, moi je mets une pièce sur Tevin Jenkins. Et je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour les Riders s'ils prennent Tevin Jenkins.
Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'ils court-circuitent les Pats. Je vois pas l'intérêt qu'ils auraient à court-circuiter les Pats pour prendre un lineman offensif, par exemple. J'ai un
Alors,
peu mal
par
à saisir.
contre, haute théorie, ils court-circuitent les Cardinals pour prendre un cornerback. Genre, ils sont amoureux de Newsom ou Farley. Ça, par contre, c'est
C'était une
possible.
possibilité, ouais. Pour moi, c'est corner ou lineman offensif.
Mais parce que tu disais Farley, Newsom, si tu es amoureux, oui, bien sûr, ça peut se justifier de trade-up. Moi, je ne l'aurais pas fait. Par contre, je tiens à dire que j'ai Newsom dans la mock pour les Jets en deuxième choix.
Comme par hasard.
On attend aussi la compensation, par contre. Pour.
Ouais. C'est bon, 14 et 4e contre 23 et 3e.
Alors, tant qu'on balance
la science... 2-3e.
Tant qu'on balance la science, j'ai Farley en 23e choix chez les Jets, au passage.
Ah,
bah, bon, là, 14e, donc, ça me paraît haut. Hein, mais, bon.
Mais donc, il récupère donc, le 14 et un 4e tour et ils envoient
le 23 et le 66.
Et le 86. Non, ils envoient deux troisième tours. Ils envoient deux troisième tours. 66-86. Ils envoient deux troisième tours.
Bon, on attend en tout cas incessamment sous peu le choix des Jets. On va être fixé très très vite. Donc oui, vous l'avez donné en effet, 14e choix général pour les Jets. Ils reçoivent un choix du 4e tour. Et derrière, ils donnent deux choix du 3e. Et c'est disparu trop vite, mais Victor, vous avez tout bien dit, évidemment. Pronostic un petit peu sur le chat, n'hésitez pas.
Mac Jones aux Patriots, ça commence à chauffer. Je veux pas faire.
S'ils prennent un quarterback, on va y venir.
Je veux dire,
on va se faire une. Parce que là, dès qu'on a le choix, on va en parler. Mais bon, après, si vous voulez parler des Patriots tout de suite, mais oui, là, il reste Mac Jones et il reste les Patriots. Ça, c'est sûr.
Mais en tout cas, pour moi, soit tu court-circuites tes Cardinals avec un CB, soit tu court-circuites tes Riders avec un Taken. Pour moi, c'est les deux justifications de ce trade-up.
Bon, en tout cas, on attend toujours Roger. Si Roger arrive sur le podium. Et il arrive tout doucement, Roger. Il dit bonjour aux supporters. Voilà, on serre la pince. Je comprends pas trop ce principe du supporter dans le fauteuil qui attend de dire bonjour à Roger, mais pourquoi pas. Il a l'air un peu tout seul, en fait. Il s'amuserait plus avec d'autres supporters, à la limite. C'est ça que je comprends pas, ce qu'il fout tout seul dans son truc. En tout cas, le choix est fait. Roger est devant le micro. Il annonce, évidemment, l'échange tout d'abord. Donc, les Vikings ont échangé avec les Jets. Avec le 14 choix, les Jets choisissent. Et les Jets Vera Tucker, le lineman offensif de USC. Je vous vois tous dire oui de la tête. Ça semble un choix qui plaît à tout le monde et qui semble évident.
Bah, c'est un peu ce qu'on a dit avant l'annonce. Hein. Donc, on parlait d'un lineman offensif. Et voilà. Oui, effectivement.
Ouais,
moi, je serais parti plus sur un tackle droit. Mais allez, Vera Tucker, il peut jouer guard. Il peut jouer tackle aussi.
Il peut jouer tackle ou guard. Il a joué les deux à USC. C'est vrai que... je ne vois pas qui court-circuite du coup, sauf s'ils sont persuadés que les Riders savaient prendre Elijah Vera Tucker, ce qui voudrait dire que Grégory Richard est un visionnaire.
Merci de le dire. Ça m'étonne que tu le découvres qu'aujourd'hui, merci de le dire.
Mais tu pensais quoi de Mahomes?
Regarde-moi ça, le mec il fait son premier direct et il attaque sur des archives. Dis donc, on va ressortir des trucs d'aujourd'hui. Toi.
Non, je pense que la vraie question c'est Elijah Vera Tucker, c'est savoir s'il est guard ou s'il est tackle. Enfin, comment les Jets s'imaginent. Moi je pense qu'ils peuvent l'imaginer en tackle, mais pour moi son vrai potentiel, son potentiel pro bowler, c'est en guard.
Moi, ce qui m'énerve, c'est que je n'ai pas Vera Tucker au Jets, mais j'avais Vera Tucker en 14 aux Vikings.
Et les Patriots piquent, ils ont attendu une minute.
C'est pour ça qu'à la base, Greg, je proposais un point quand tu avais le joueur au bon niveau.
Je sais, mais bon,
indépendamment de l'équipe.
C'est pas le principe.
Bon. Parce que j'avais la même en 14 aux Vikings et aussi.
Les
j'avais
Patriots ont choisi en moins d'une minute. Hein. Alors, les autres équipes ont choisi en 10 minutes.
C'est ce que j'allais vous dire. Ouais, le choix des Patriots est déjà dans la boîte. Hein, donc,
ils sont vraiment énervés pendant cette intersaison, les Pats.
Ouais, là, ils sont. Je sais pas s'ils ont
pas de temps à perdre.
En tout cas, on a la draft. Alors, Bill Belichick ne sait pas porter un masque, hein, puisqu'il l'a sous le pif. Robert Kraft, là, c'est limité. Hein. Ils sont que 3 dans la. Dans la War Room.
De toute façon, Belichick qui fait tout dans le front office, donc il n'y a pas besoin d'avoir plus de monde. Hein.
C'est vrai.
Il est directeur du personnel, GM, coach.
Mais alors, je ne sais plus qui avait sorti ça, si c'était Sports Illustrated qui avait sorti que justement ils essayaient de revoir un petit peu leur fonctionnement pendant cette intersaison, que les, les recruteurs se plaignaient en fait d'être un peu mis de côté dès la fin de la saison régulière, play-off NFL, que Belichick prenait vraiment la main avec un groupe très restreint de gens et n'écoutait pas vraiment ensuite les avis de ceux qui avaient fait le boulot de fond, on va dire, pendant la saison régulière, et qu'ils avaient essayé d'être un peu plus à l'écoute pendant cette intersaison. On va vite voir ce que ça donne parce que je crois... Non, c'est pas la silhouette de Roger Goodell. Si, c'est la silhouette de Roger Goodell. Je crois que je vois un derrière. C'est ça. Donc, Mac Jones or not Mac Jones, on va être fixé assez vite. Tout le monde Mac Jones, du coup, là, sur le choix
oui, Jalen oui. Phillips.
Jalen Phillips.
Moi, je l'avais sur ma mock, Mac Jones.
Allez. Alors, il va annoncer, je crois... Voilà, il va annoncer un petit peu des histoires... Ok, bon, là, il parle un petit peu...
J'ai pas entendu Victor, par contre.
...de problèmes liés à la pandémie. Alors...
Merci à Electroza de rappeler que j'avais dit que Gigi Arcega-Whiteside était meilleur que Dikembe Metcalf. C'est vrai. Je l'assume.
Voilà.
J'avais dit ça à une époque.
On va en trouver pour tout le monde, hein, t'inquiète pas. Donc, Jalen Phillips, tu disais... C'est quel poste, rappelle-nous
Pass rusher.
Pass rusher. Greg, Mac Jones.
Mac Jones.
Mac Jones aussi.
Ouais. Victor, Mac Jones. Ok, donc on a du Mac Jones pour tout le monde.
Mais un pass rusher ne serait pas étonnant. Enfin, ça fait sens. Hein.
Mais rien ne serait...
Attends, ouais.
Rien ne serait étonnant hein, pour les Patriots. Le choix est donc fait. Le monsieur retire son masque. Alors, avec le 15e choix de la draft 2015, les New England Patriots choisissent...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mac Jones, quarterback, Alabama, ils l'ont leur quarterback, les Patriots ont leur nouveau quarterback, et ça c'est quand même un des événements de la soirée, clairement, l'héritier, en tout cas celui qui aura la lourde tâche de succéder à Tom Brady, et là il s'appelle Mac Jones. Messieurs, est-ce qu'ils ont trouvé, c'est dur, je ne vais pas dire l'héritier de Tom Brady, mais est-ce qu'ils ont leur quarterback titulaire du futur? Allez, on va aller jusque là, Jean-Michel, je te sens bien chaud.
Ah ouais, je suis très très chaud là, parce que vraiment je suis très content, parce que sur plusieurs mocks j'avais mis Mac Jones aux Patriots, et puis alors tous les fans des Patriots me sont tombés dessus, mais c'était incroyable, c'était en mode mais tu nous veux du mal Mac Jones, mais on n'est plus en 2000, on est en 2021, donc c'est pas Mac Jones. Donc là sur Twitter demain, mais ça va être fabuleux, faut vraiment aller sur Twitter demain. Alors après, bon, on va revenir sur le choix, on va être un petit peu sérieux. Mac Jones, c'est quand même un super quarterback. À qui il fait penser le plus par rapport au quarterback qu'on connaît? Ben, c'est un petit peu soit Matt Ryan, soit Tom Brady. Donc du coup, ça fait sens. C'est comme on le voit à l'image là, c'est quelqu'un qui est très précis, qui est très bon professionnellement. En plus, on connaît très bien la connexion entre Bill Belichick et Nick Saban, l'entraîneur d'Alabama. Donc du coup, c'est clair que les deux savent très bien comment ils vont l'utiliser, comment ils peuvent fonctionner dans le bon système. Moi, je trouve que c'est un bon choix. Mais en plus, voilà, cerise sur le gâteau, ça va être vraiment rigolo sur Twitter.
Et dans le genre bon, de
en dehors de Jean-Michel qui répond à ses haters, est-ce que...
Ouais, mais moi, en autre comparaison, j'avais Andy Dalton. Pour moi, c'est un peu le même type de quarterback. C'est-à-dire, joueur qui bien entouré, peut être vraiment productif, vraiment performant. Parce que Andy Dalton, c'est vrai que c'est la culture de l'instant, on l'oublie un peu, mais au Bengals, il était très productif à une époque. Mac Jones, il correspond bien. Moi, j'aime bien dans le système Patriot. Le vrai successeur, c'était censé être Jared Stidham. Du coup, ça veut dire qu'on met fin à l'expérience
oui, Jared Stidham. Je voudrais pas un peu calmer les ardeurs des supporters des Patriots, mais je vois par exemple Ludovic et Agnès qui disent sur le chat, si Bill Belichick choisit Mac Jones, c'est qu'il est bon. Bill Belichick, il a aussi choisi Jared Stidham. Il a aussi choisi quelques autres quarterbacks un peu miteux.
Bill Belichick, c'est le meilleur coach de l'histoire, mais c'est pas le meilleur drafteur de l'histoire.
Ouh là là, attention, c'est pareil. Attention à ce que tu dis.
Faut se calmer. Ils aiment les game managers, les Patriotes. Ça correspond au système. Moi, ça me paraît un choix logique. Disons que j'aurais pas aimé qu'ils trade up pour lui, mais ils tombent en 15 chez eux. Ils ont rien à faire, ils ont juste à l'attendre. Il y avait pas de raison de pas le faire.
Greg, pas de raison de pas le faire.
Oui, non. Très franchement, ça s'incorpore bien dans le jeu très axé sur des passes intermédiaires de Josh McDaniel. Je pense que Mac Jones sera parfait dans ce rôle-là. Puis bon, on sait qu'il y a eu beaucoup de moqueries pendant le processus draft sur le petit bidon de Mac Jones. Bon, la dernière fois qu'ils ont drafté un joueur qui avait un petit bidon sur les vidéos, il a gagné plusieurs Super Bowls. Donc on va pas présager encore une fois et lui mettre une pression inutile. Mais voilà, de toute façon, je ne pense pas qu'il part pour être titulaire dès le début de saison 2021. Non. Je pense qu'ils ont dans l'optique de le mettre derrière Cam Newton dans un premier temps. Après, en fonction du rendement de l'ancien QB des Panthers et en fonction de l'acclimatation de ce premier tour de draft, faudra voir quand les cartes seront redistribuées, mais il y a peut-être moyen de le lancer, pourquoi pas, en milieu de saison, par exemple.
Mais si tu le lances en milieu de saison, ça veut dire que tu fais vraiment deux playbooks, hein, parce que la façon de jouer de Mac Jones et la façon de jouer de Cam Newton, c'est vraiment pas la même.
Oui, en termes de mobilité, Mac Jones, c'est pas son fait d'arme principal. Il est plus réputé pour sa gestion de la poche que pour vraiment son explosivité, quoi.
Ça m'étonnerait même pas qu'on le voit pas de la saison ou presque pas, et je considérerais pas ça comme un désaveu. On peut aussi le dire pendant un an, il est juste à attendre.
Moi, j'aime bien taquiner un peu les supporters des Patriots et de Boston en général. C'est que Mac Jones, il y a 2 heures, il était complètement bidon et tout le monde voulait qu'il aille aux Niners parce qu'ils allaient pouvoir se payer sa tronche et tout.
Ah
et
bah
là, depuis
2 minutes,
Mac Jones est un futur Hall of Famer. Oui, le gars est le meilleur choix de l'histoire. Ça va être incroyable.
Mais ça, c'est...
Je trouve ça le retour de narrative. Il y a 3 semaines, le mec, ils en voulaient pas. C'était poubelle, machin. Là, maintenant, c'est une légende, quoi. Donc,
mais ça, c'est vrai de toutes les dynasties, en fait. Quand il y a des équipes qui gagnent beaucoup, comme les Bulls à une époque, n'importe quelle équipe qui domine son sport, comme les Yankees aussi à une époque, on part du principe qu'ils font que des bons choix.
Oui, non, oui.
Il y a aussi des moments où ils vont faire des mauvais choix. Il y a aussi des moments où les dynasties s'arrêtent. Enfin, je veux dire, les Yankees, ils ont pas gagné, ils ont gagné quoi, un ou deux titres depuis 20 ans. Enfin, même les plus grandes dynasties, je dis Yankees, alors, parce que c'est la plus grande dynastie du
Victor, je t'arrête parce qu'on n'est pas déjà un. Bon, le baseball.
Non, mais je plaisante.
Et c'est surtout que Roger Goodell est sur le podium.
Ah, déjà ?
Eh oui, déjà.
Cornerback pour Arizona.
Les Cardinals.
Zaven Collins.
Ou Caleb Farley.
Alors, 16e choix.
Zaven Collins, c'est possible.
Les Cardinals choisissent. Zaven Collins, linebacker. Zaven Collins, pardon, linebacker de Tulsa. Ce sera donc un linebacker pour les Cardinals. Et oui, on parle beaucoup des Patriots, évidemment, parce que c'est toujours des choix qui font parler. C'est une équipe mythique. Et en plus, c'était un quarterback. Donc, évidemment, on débriefera ça encore plus en détail dans les émissions de débrief de la draft où on parlera de toute la classe pour chaque équipe avec des notes façon conseil de classe. Donc, on vous invite à y revenir. On pourra en reparler un petit peu au cours de cette retransmission. Si vous le voulez, dans le chat, on va quand même pas manquer de respect aux Cardinals et il faut qu'on parle de ce choix. Donc, Zaven Collins, linebacker, on n'a pas eu le temps. Donc, est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que c'est un joueur d'avenir? Présentez-nous un peu tout ça. Greg, je te laisse commencer.
C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si à Arizona, c'est forcément l'endroit où je l'aurais vu en priorité. D'un point de vue besoin, j'entends. Hein. Je pense que les Cards, mais là, encore une fois, s'ils n'ont pas trouvé de partenaire pour trader, si vraiment c'était leur souhait initial et en 16e position, cornerback, ça faisait peut-être un petit peu haut. Je ne parle même pas de la position de running back pour ne pas énerver Victor. Donc là, c'est sûr qu'en effet, mais mine de rien, ça fait 2 années de suite du coup qu'ils draftent un linebacker au premier tour. Et même si c'est pas exactement la même chose qu'Isaiah Simmons, il y a quand même une polyvalence, un profil vraiment hybride qui va être intéressant à surveiller. Et là, en l'occurrence, bon, il va avoir Jordan Hicks qui va jouer dans un profil très classique pour un linebacker, on va dire, même s'il est capable de faire plusieurs choses. Mais vraiment, Collins et Simmons, voilà, ça va être des cauchemars, on va dire, au snap pour le quarterback adverse. On ne va jamais savoir concrètement quelle zone du terrain ils vont occuper. Et c'est peut-être dans ce sens-là aussi que la défense d'Arizona ambitionne de s'améliorer et de moins exposer son backfield défensif, ou en tout cas à l'extérieur.
Bon choix aussi pour vous. Je vois plutôt un Jean-Michel d'accord là.
Oui, ça fait une super paire. C'est vrai que quelque part, alors il ne sait pas qui se ressemble, mais c'est vrai que c'est deux linebackers qui sont très bons en couverture. Mais du coup, il y en a deux. Et il ne faut pas oublier qu'ils jouent quand même dans une division où il y a San Francisco avec George Kittle. Donc du coup, pour défendre les Titans, c'est très important. En plus, Zaven Collins, il sait un petit peu tout faire. Et du coup, là, sur le second rideau, ils vont quand même avoir Zaven Collins et Isaiah Simmons. En plus, devant eux, il y aura Chandler Jones, il y a J.J. Watt. Derrière eux, il y a Buda Baker. Enfin, il y a vraiment du monde pour les Cardinals. Il va avoir une très belle équipe cette année.
Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Enfin, Zaven Collins, c'est un joueur qu'on aime tous les trois. C'est vraiment, faut le dire, hein, il est énorme au sens littéral du terme. C'est-à-dire, c'est un Anthony Barr, c'est vraiment linebacker massif. C'est Brian Urlacher, pour ceux qui s'en souviennent, ce genre de choses. Sauf que c'est Brian Urlacher en super rapide. C'est-à-dire qu'il a une mobilité incroyable pour sa taille. Donc, clairement, moi, je pense que entre Simmons, qui est une sorte d'hybride linebacker safety, X, qui est en effet un peu traditionnel, et Zaven Collins, qui va être un peu ce facteur X, mi-pass rusher, mi-couvreur, enfin, il peut globalement tout faire. Clairement, c'est pas le choix le plus instinctif pour les Cardinals, mais c'est un choix qui fait vraiment sens.
Jean-Michel, la pression est sur toi, Didi Jaconier, ouais. Dans le chat. J'ai vu Flo07 aussi, éternel supporter des Raiders, qui disait les Raiders, faites-nous rêver. 2 minutes 20 sur le chrono à ma montre. Qu'est-ce que tu attends pour cette équipe des Raiders? Est-ce que, bon, c'est John Gruden, donc il prend quoi, un lineman offensif ou un coureur?
Non, j'espère qu'il va prendre un lineman offensif ou alors un défenseur. Moi, j'espère qu'il va prendre Tevin Jenkins. Sinon, au pire, qu'ils prennent Christian Dariso. Et puis, si vraiment il ne veut pas aller sur la ligne, mais quand même, ça m'étonnerait que ce soit un bon défenseur. Par exemple, Jeremiah Owusu-Koramoah, ou voire Trevon Moehrig. Mais je pense quand même qu'ils vont aller sur la ligne offensive. Elle a été déplumée. Les Raiders, ils ont perdu Rodney Hudson, qui est parti justement aux Cardinals. Qui a perdu Gabe Jackson, qui est parti à Seattle. Ils ont perdu aussi Trent Bond, qui est retourné à New England. Il faut un lineman offensif. Il en reste deux de très bons. Donc, je serais vraiment surpris s'ils faisaient un autre choix.
Il en reste trois de très bons. Non, mais pour le coup, je ne sais pas, Mayock a multiplié les interviews pour dire qu'il était très content de sa ligne et qu'elle était plus jeune et athlétique que jamais.
Oui, donc, alors ça...
C'est parce que tu ne connais pas André James, le centre.
Mais moi... Pardon ?
C'est parce que tu ne connais pas André James, le centre. Ce n'est pas Nick Martin, c'est
André James. André James, je te rappelle qu'il vient du UCLA. Donc, si, je vois très bien le personnage. Non, pour le coup, je suis d'accord. Tevin Jenkins, c'est celui qui fait le plus de sens.
Ah, j'adorerais.
Si ce n'est pas Tevin Jenkins, c'est en effet à défense. Et du coup, je dirais cornerback, je ne sais pas, parce qu'ils ont quand même déjà un jeune groupe. Donc, Trevon Moehrig, pourquoi pas, oui. Sinon, un edge, c'est pas inenvisageable, c'est pas la direction que je prendrais. Et dernier nom que je mets dans le bac, parce que c'est aussi possible, Christian Barmore, defensive line intérieur, c'est pas impossible non plus.
Non, ça serait très bien.
Comme Gruden est un peu dans une NFL à l'ancienne, où il faut renforcer des lignes, ça serait pas étonnant qu'à côté de Clelin Ferrell, à côté de ces joueurs-là, de Max Crosby, etc., il rajoute une encre au milieu, Christian Barmore. Donc, ça fait partie des choses envisageables.
Je tiens à vous relayer le message d'Anto Beka qui dit « Jean-Michel et Victor, c'était très bien en podcast, c'est encore mieux en live YouTube. Merci les gars. »
Ah ben merci.
Merci à vous. Merci
moi, je n'ai pas le chat sous les yeux, donc merci. D'ailleurs, je salue tout le monde, tous les gens de Tahiti, d'Alger, de partout, et puis surtout à Yokohama, le Anthony que tu as cité tout à l'heure.
Tu le connais ou c'est juste en particulier la destination qui te...
Non, enfin je le connais sur Twitter, hein, mais je vais
dire, d'accord.
Ça me dit salut.
Ouais. Ok, très bien. Grégory, les Raiders, plutôt lineman offensif, puisqu'ils ont déplumé eux-mêmes leur ligne.
Ouais, allez, Tevin Jenkins, pour faire plaisir en effet à Jean-Mi, mais je lui souhaite Christian Dariso également, hein, que j'aime beaucoup, mais Là, vu la position, ce sera plus un alignement, je pense.
Et ben on va être fixé. Oh, Roger Goodell est au podium. Alors, il s'est spoilé tout seul. Jean-Michel nous dit rien. Le 17e choix de la draft. Pour les Raiders, ils choisissent Alex Leatherwood, tackle d'Alabama. Alors, il y a le poste. Vous aviez le poste expérimenté, bon pied.
Pardon.
Mais alors, voilà, je vois un Victor étonné. On va laisser quand même Jean-Michel commencer.
Oui,
Jean-Michel, Alex Leatherwood, content, pas content, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Si, je suis content. C'est un bon joueur. Moi, je trouve qu'il était un peu trop critiqué parce que c'est quand même un très bon joueur. Il est 4 saisons titulaire à Alabama, c'est pas pour rien. Il a joué comme guard, il a joué comme tackle gauche. Il est puissant, il a de très longs bras. C'est vraiment un bon tackle. Après, c'est vrai que ce n'était pas mon tackle préféré parmi ceux qui restent. Mais bon, au moins, c'est un tackle. Et puis, moi, je l'aime bien, les Leatherwood. Donc, du coup, je suis globalement satisfait. J'aurais pu être plus heureux que ça, mais bon, ça va.
Victor, c'est un peu la méthode Mike Mayock, c'est-à-dire qu'on prend le bon poste, mais le mec en dessous de ce qu'on attendait.
On prend, si je reprends le fameux plafond plancher, on prend un joueur qui, pour moi, a un plafond limité. Mais par contre, c'est peut-être de tous les linemen le plancher le plus haut. Parce qu'il a tellement d'expérience, de polyvalence, il a tellement prouvé à Alabama que je ne vois pas dans quel monde c'est un mauvais joueur. Okay. J'ai du mal à l'imaginer pro bowler ou all-pro. Par contre, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer mauvais joueur. Donc, en soi, si vraiment, après, les scouts, ils ont fait leur travail, si vraiment, ils ne croient pas en Jenkins, ils ne croient pas en Eckenberg, ils ne croient pas en Cosmi, dans ce cas-là, et que pour eux, les Leatherwood, c'est le choix le plus logique, ça se défend. C'est clairement pas le choix que j'aurais fait, mais c'est pas non plus. C'est juste que Leatherwood, je trouve qu'il a pas cette mentalité de méchant qu'aime bien Gruden. Je trouvais que Tevin Jenkins, il avait plus sa mentalité Riders. Mais en soi, oui, Leatherwood, ça me choque pas.
C'est moi, je vois pas Gruden dans la war room. C'est les masques, je sais pas, je reconnais pas, mais. J'arrivais pas à voir Gruden dans la
ah, il est caché, ouais, je sais pas. Autant Mark Davis, on l'a reconnu rapidement. Mais
il a mis son plus beau pyjama, Mark Davis. Hein.
Comme souvent, j'ai envie
de
dire.
Il a soigné. Et alors, on parlait de gens qui savent pas porter un masque. Bill Belichick, c'est sous le pif. Gruden, c'est sous le. Davis, c'est sous le menton, carrément. Donc, on passe level suivant. Grégory, donc tackle, mais pas celui que vous citiez tout à l'heure. Leatherwood. Donc, joueur solide. On peut dire que c'est un choix sûr.
En tout cas, non, je rejoins globalement ce qu'ont dit Victor et Jean-Mi. Après, je pense que c'est un des tackles pour le coup. Alors, c'est vrai qu'on lui reproche pas mal. Il n'a pas une agilité folle, en tout cas de ce qu'il a démontré à Alabama, malgré le fait paradoxalement d'avoir joué souvent tackle gauche depuis sa première année du côté de Tuscaloosa. Mais c'est un tackle qui charbonne sur le jeu au sol. Et quand on sait en effet que John Gruden reste dans le passé, et notamment sur un jeu à la course très axé, Josh Jacobs et Kenyan Drake vont être très contents d'avoir de nouveau un lineman expérimenté dans ce domaine-là. 5e joueur de Bama déjà, hein, si je sais compter dans ce premier tour. Sur 17 choix, ouais. C'est quand même, ouais, à noter. Ouais. Donc, ouais. Et il y a peut-être un running back qui va tomber bientôt. Donc, voilà, belle QV pour l'instant de Bama. Et choix intéressant de Leatherwood, même si en effet, c'était clairement pas le meilleur tackle disponible sur les boards respectifs des uns et des autres.
Alors que revoilà Miami, messieurs, le choix des Dolphins est dans la boîte. Le choix des Dolphins est dans la boîte. On rappelle qu'ils ont déjà sélectionné dans cette draft, qu'ils ont pris un receveur. Est-ce que c'est le moment, du coup, parce que tout à l'heure, on a dit qu'ils pourraient prendre Penny Sewell, comme ça, ils pourraient protéger Tua Tagovailoa. Bon, voilà, ils arrivent avec un receveur en plus. Est-ce que c'est le moment où ils prennent un tackle? Alors, attendez, on va faire à l'envers. On va d'abord donner le choix, parce que le choix arrive.
Moi, je vais aller sur Edge Rusher. Hein.
Ouais, Edge Rusher. Voilà.
Peut-être Jalen Phillips qui reste à Miami.
Ouais, okay. Je suis d'accord avec ça.
Même chose pour Jean-Michel.
Ouais, Pass Rusher aussi, ouais, okay. Je pense. Ouais.
Alors, avec le 18e choix, les Miami Dolphins choisissent. Suspense. Jalen Phillips. Defensive end de Miami, et comme ça, lui, il reste chez lui. Comme ça, il est tranquille. Il n'a pas besoin de déménager Jalen Phillips. Alors, je parlais de tackle ou de lineman. Je me suis complètement planté. Pass rusher naturel, flexible, qui rappelle Montez Sweat pour NFL Network. On est sur du gros potentiel. Ça change une défense ou pas, Jalen Phillips? Oui, haussement de sourcils de Grégory.
C'est compliqué, Jalen Phillips, et je pense que mes comparses sont d'accord. Le talent, il est indéniable. En effet, c'est un joueur qui sait faire énormément de choses sur un front seven. Encore plus dans la défense de Brian Flores, où on va sûrement lui demander d'être extrêmement versatile. Mais c'est un peu le problème de la possible bombe à retardement. Jean-Mi en parlait, il me semble, notamment hier lors de la mock, le nombre de commotions qu'il a subies dans sa carrière universitaire, qu'il a obligé à prendre un an de recul avant de rebondir à Miami, où malgré tout, il y avait quand même un super casting sur le pass rush l'année passée. Alors certes, il n'y avait pas Grégory Rousseau qui était en retrait, mais bon, Quincy Roach, par exemple, ça dégage un petit peu de pression quand même. Après, les qualités athlétiques, encore une fois, sont indéniables, mais il y a ce risque de blessure, on va dire, fatale, qui pourrait anticiper une retraite ou ce genre de choses. Donc, ce n'est pas à négliger pour un 18e choix de draft, à mon sens.
Oh, le pauvre chat de Jalen Phillips qui s'est fait secouer comme un prunier. Il est bonne patte, hein, parce que j'en connais qui auraient déjà mis des coups de griffe bien avant. Donc, il a un chat très mignon, en tout cas, Jalen Phillips. Excusez-moi. J'ai pas votre savoir, hein, moi, sur les prospects, donc j'analyse les détails.
On n'a rien dit.
Je suis là pour ce genre de choses-là. Moi, je fais la transition avec le peuple du chat qui, comme moi, est parfois un peu moins érudit sur ces joueurs. Donc, Jalen Phillips, Victor, Jean-Michel, allez, est-ce que ça change un peu cette défense?
Oui, totalement. C'est un super joueur. Il est athlétique, il a de la vitesse, il a de bonnes mains, il a une très bonne technique. Mais comme l'a dit Grégory, le souci, c'est les commotions parce que, à la limite, je suis plus rassuré à prendre un joueur qui s'est fait les croisés il y a 2 ans que de prendre un joueur qui a eu comme ça autant de commotions. Parce que comme il a dit, il a commencé d'abord à UCLA et puis c'est les docteurs qui lui ont demandé d'arrêter le football parce qu'il avait eu trop de commotions et donc il a arrêté 1 an totalement. Il est parti à Miami pour suivre un cursus scolaire. Il étudie la musique là-bas parce que c'est sa passion depuis tout petit, il fait de la musique, de la guitare, du piano, etc. Et donc, aller à Miami que pour faire de la musique. Et puis, il a un peu insisté, les docteurs lui ont donné le feu vert. Et ils ont bien fait parce qu'il a fait une super saison à l'université. Mais en gros, le joueur, s'il prend 2 commotions en NFL, les docteurs vont lui demander d'arrêter. Et c'est vraiment un risque.
Ah oui, donc c'est ultra flippant quand même, le bilan médical du bonhomme. Ils aiment bien ça, du coup, Miami. Ils avaient pris Tagovailoa l'an dernier qui avait un genou en miettes. Là, ils prennent un mec qui a un cerveau en miettes.
Mais c'est ça, ils font un peu dans le social. Hein. On rappelle qu'ils ont quand même tradé pour Isaiah Wilson avant de se rendre compte que c'était un cas désespéré. Donc,
c'est vrai. Ouais. Ce qui n'a pris que quoi, 1 ou 2 jours. Hein. Là, pour le coup, c'est allé très très vite. Victor, même problème, joueur talentueux, mais gros
ouais,
doute. Quoi.
Tout a été dit. Joueur à trajectoire inédite, premier lycéen à son recrutement, carrière à UCLA, blessure, commotion, retour inespéré, prodé incroyable, et il se retrouve premier edge de cette draft. Bon voilà, c'est sûr que les Dolphins, certains fans vont dire, et la ligne offensive dans tout ça, et c'est vrai que ça peut être une question pour la suite de cette draft. Mais en soi, voilà, c'est un deuxième excellent joueur qui vient compléter cette équipe.
Juste Alain, si tu me permets, 2 petites choses très rapides. Déjà, juste, on parle de Jalen Phillips. On rappelle que Miami a drafté Jalen Waddle tout à l'heure qui a des problèmes de blessure en sortie d'Alabama. C'est aussi à souligner, tant qu'on parle de ça. Et puis juste pour l'anecdote, parce que Miami, c'est quand même pas n'importe quel fax, c'est le premier joueur drafté au premier tour de la draft depuis 2017, et David Njoku. Donc, c'est quand même pas tout à fait anodin, cette sélection de Jalen Phillips.
Jalen Phillips, donc vous le disiez, c'est le premier edge rusher en 18e. C'est une petite cuvée quand même. On fait un aparté, mais petite cuvée défensive, non, j'ai l'impression.
Et surtout à defensive line, que ce soit edge ou defensive line intérieur, oui, c'est très faible.
Mais c'est profond, hein. C'est profond, mais il n'y a pas de méga star comme il peut y en avoir ces dernières années avec Bosa, avec Young, pour Garrett.
2022 sera bien meilleur en termes défensifs, normalement. Après, on ne sait jamais un an avant, mais théoriquement, 2022 sera bien meilleur en défense.
Mais si j'ai bien compris, on peut en parler un petit peu, on a un poil de temps, même si on va aborder ce qui arrive là avec Washington, mais 2022, ça s'annonce comme une très très grosse QV. Victor, je sais que tu défends ce concept là depuis quelques jours.
Oui, en fait, y a quelque chose qui m'a marqué en faisant mon Beatboard 22, et plusieurs personnes, dont Schefter et Rapoport, ont commencé à tweeter la même chose. C'est qu'en fait, avec le Covid, il y a eu une année d'éligibilité gratuite. Je ne sais pas si c'est le mot exact, Grégory pourra me corriger, mais dans l'idée, c'est un peu ce qui a été offert aux joueurs. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de seniors qui sont revenus en université. Et du coup, on a une densité qui est assez folle en 2022. Et je pense que des 4e à 7e tours, il va y avoir du potentiel bien plus gros qu'à l'accoutumée. Donc, ça peut être une grosse draft. Et surtout, défensivement, c'est vrai que 2021, c'est faible. C'est faible. C'est profond, mais ce n'est pas flashy. 2022 s'annonce quand même beaucoup plus profond. Et je transitionne en disant que Washington, pour moi, ça va être un tackle et je vois Samuel Cosmi.
Et ben voilà, cet homme est efficace, d'une efficacité redoutable, il a tout fait. On est donc à Washington, qui a le 19e
Grégory
choix
n'est pas
de
d'accord.
Cette draft. Et il y a en effet des besoins sur la ligne, il y a des besoins au poste de linebacker notamment. Il pourrait prendre peut-être une petite ciblounette ou deux, il pourrait prendre même un quarterback, hein, soyons fous quand même. Est-ce que tu vois donc autre chose qu'un lineman, Grégory?
Non, ils prennent Christian Dariso.
Christian Dariso, pronostic rapidement Jean-Michel parce que là on annonce le choix.
Linebacker peut-être, ouais, linebacker. Effectivement.
19e choix, les Washington tout court, choisissent Jamin Davis, Kentucky.
Oh. Alors, j'avais dit qu'il y avait un... Moi, je demande la VAR parce que comme il a une minute d'avance, je pense que Jean-Mi, je soupçonne une triche.
Non, alors, en fait, le point faible de leur défense, parce qu'ils ont un bon front seven, mais si tu regardes bien, c'est l'intérieur. Il y a John Bostic et Cole Holcomb. Donc, s'ils prenaient un défenseur, c'était forcément un linebacker intérieur. Donc, oui, bien sûr que Cosmi ou Dariso, ça aurait fait sens, mais un linebacker, voilà, on connaît Ron Rivera, son appétence pour la défense. Moi, ça ne me surprend pas. Je ne serais pas parti sur un pass rusher ou sur un corner, mais un linebacker, ça faisait sens.
Plutôt grand linebacker, d'ailleurs, je le vois annoncer à 6-3. Il doit être à au moins 90. Oui.
Mais en fait, c'est
90.
C'est la nouvelle sensation. C'est quelqu'un qui est sorti un petit peu tard parce qu'il a fait qu'une seule saison comme titulaire, mais vraiment, c'était la grosse cote ces dernières semaines. Ça m'étonne pas qu'il sorte au premier tour. Là, sur la mock que j'ai fait tout à l'heure, je le mettais au bronze au premier tour. C'est quelqu'un qui est très athlétique, vraiment très athlétique. il va très vite. En plus, il est bon en couverture, comme on peut le voir là sur les images. C'est un excellent joueur. Après, il a qu'une seule saison comme titulaire.
Grégory, je te sens pas convaincu.
Si. Bon, après, il y a forcément le syndrome de la grosse année, forcément, du joueur. Bon, sachant qu'il avait été redshirté avant, mais Kentucky sait sortir quand même des défenseurs plus que potables ces dernières années, notamment Josh Allen en 2019. Donc, non, ils savent faire, notamment sur le poste de backer. Après, c'est cette petite incertitude. Après, vu le profil du bonhomme, et en effet, vu ce qu'il a démontré, toute sa polyvalence, ça a été justement le leader défensif des Wildcats l'année passée. Et donc, c'est pas totalement un hasard. Dans une classe de backer où on a beaucoup de profils hybrides, il en fait partie. Donc, c'est pas non plus. Il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise de voir sélectionné comme troisième linebacker du plateau.
Et les tackles commencent à tomber, hein, parce que Dariso et Jenkins, ils étaient annoncés plus haut que ça, surtout Dariso, qui en gros passait pas les Chargers dans à peu près la majorité des mocks, là ça commence à tomber sérieusement. Et c'est peut-être une transition, mais par rapport aux Giants, qu'ont Ned Solder et Andrew Thomas, Ned Solder c'est je crois sa dernière année, est-ce que les Giants, qu'on voit plus partir sur un edge type Quitty Pay ou autre, va pas se dire tiens, un Christian Dariso, ça peut m'intéresser?
Jean-Michel.
Mais tu vois, par exemple, quand on parlait du choix des Bengals un petit peu plus tôt, effectivement, on aurait tous pris Penei Sewell, ça paraissait un choix logique. Ils ont finalement pris Jamar Chase. Mais du coup, il rate des tackles en début du second tour.
Oui, c'est vrai.
Ah, oui,
là,
oui.
Ça se développe
coup,
comme ça.
C'est pour l'instant, c'est pas mal. Et je dirais aussi, les Dolphins, avec tout leur pic, etc., s'ils ont envie de faire un petit trade-up en fin de premier tour parce qu'il reste un tackle qui leur plaît, maintenant qu'ils ont eu un receveur et un pass rusher, les Dolphins qui ont plein de picks, je ne serais pas très étonné qu'ils arrivent en 27-28 choper un tackle s'il est encore là.
Il y a la war room qui apparaît des Giants à l'écran. Il n'y en a aucun qui ont un masque. Et du coup, NFL Network met un petit logo fully vaccinated war room maintenant.
C'est pas les premiers pour qui ils font ça. Ouais, mais,
c'est pas mal.
Après, attention, on est dans la deuxième partie du premier tour. Hein. Généralement, les tackles, ça reste le choix facile. Hein, donc,
Moi, je pense que Quitty Pay, là, ça correspond trop au système Giants pour passer à côté. Alors, j'ai dit ça, aux Panthers, j'ai dit que ce serait 7 heures et j'ai dit que c'était une certitude. Donc,
je sens bien encore une surprise s'il part sur un rusher. Généralement, en plus, Gettleman aime bien sélectionner le joueur qu'il aime. Mm-hmm. S'il sélectionne et s'il part sur un edge rusher, même si je pense quand même qu'un tackle, ça reste important, mais ils en ont drafté un, non pas l'année passée, Andrew Thomas, c'était l'année dernière.
Deux même. Deux. Matt Paire et Andrew Thomas.
Matt Paire.
Oui, non, je parlais du premier tour. Je parlais juste au premier tour, mais s'ils partent sur un edge rusher, je ne serais pas étonné qu'ils partent peut-être sur un Jason Away.
Ah, j'ai cru que tu allais dire Gregor Rousseau.
Mais... Ouais, Jason Away, pour le potentiel athlétique, ce n'est pas, c'est pas inenvisageable.
Est-ce qu'on peut d'ailleurs rappeler, parce que le nom revient même parfois un peu sur le ton de la blague, pourquoi Grégory Rousseau revient parfois un peu sur le ton de la blague, Jean-Michel, je vais s'expliquer.
Ben parce qu'en fait, il a fait une saison, mais c'était une saison fantastique. Mais le souci, c'est qu'il n'a pas joué l'année dernière, donc du coup, ça inclut deux choses. La première, c'est qu'il y a des pass rushers qui ont joué et qui ont marqué des points, style Jalen Phillips, donc ils y sont passés devant. Et donc, après, on s'est dit, ben, sa chance à lui, c'est le combine, sauf qu'il n'y a pas eu de combine. Donc après, on s'est dit, ben, sa chance à lui, ça va être le pro day, sauf qu'au pro day, il n'a pas été fantastique. Donc du coup, ben, il glisse. Et le petit souci qu'il y a avec lui, c'est que c'est un très bon joueur, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quelle position finalement il va pouvoir jouer, parce qu'il a un gabarit un petit peu entre les deux, si tu veux. Mmh. Il n'est pas assez rapide pour être vraiment cet outside linebacker qui vraiment tourne le coin avec beaucoup de fluidité. Il n'est pas non plus suffisamment costaud pour être quelqu'un qui joue beaucoup plus devant. Donc, on ne sait pas trop. Donc, il y a un peu tous ces facteurs réunis qui jouent contre lui.
Très bien. Voilà, je voulais situer parce qu'il y a des noms qu'on cite plusieurs fois qui reviennent. Expliquer aussi pourquoi on en parle. Les Giants, en tout cas, sont annoncés. Le choix a été donné. Donc, ça, on attend maintenant l'arrivée de Roger Goodell sur le podium. Mais le choix a été fait. Donc, ce qui veut dire que ce sont les Colts qui sont officiellement maintenant sur l'horloge. On avance doucement. On est au 20e choix. Vous l'avez dit, hein, ça commence à être cette période de la draft un petit peu incertaine où il y a des noms qui arrivent parfois de nulle part où on va peut-être avoir. Alors, on n'a pas les. Attendez, je ne veux pas dire une bêtise. On n'a pas les Seahawks dans ce tour. Donc, c'est dommage. On ne va pas avoir un mec qui sort vraiment de vraiment nulle part. Grégory ?
Non, bah je... Non. Bon. Cela dit, on était étonnés par J.C. Horn à Carolina. Alors, ce n'est pas du tout un ridge, donc ce n'est pas comparable. Mais en termes de surprise, on rappelle que le nouveau general manager de Carolina vient de Seattle, Scott Fitterer. Donc, il y a une certaine logique dans le fait qu'on ait été surpris par le choix des Panthers. Moi, en tout cas, après, visiblement, c'était pas le cas vrai de tout le monde.
Juste une petite question, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a opt-out pour jouer à Call of Duty. Donc, je suppose qu'on parle de Grégory Rousseau. C'est sur le chat, c'est Dalton qui nous dit ça. Le choix est fait, il est envoyé. Prono de dernière minute, Jean-Michel, sans regarder ton écran d'à côté.
Qui paye comme Victor.
Qui paye, Greg.
Jason Away, juste pour la blague.
Le petit salut aux supporters qui portent visiblement un maillot de Lance Taylor.
Ouais, le mec qui regarde son téléphone, il s'en fout.
Avec le 20e choix, les New York Giants choisissent Kadarius Toney, receveur de Florida. D'accord. Alors, on donne des cibles à Daniel Jones. Il a des capacités de running back, des mains irrégulières, dit NFL Network. Alors, des mains irrégulières pour un receveur, ça me fait toujours plaisir. Et quand je vois l'étonnement de Jean-Michel, pourquoi tu es si étonné ?
Ah, ben parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils prennent un receveur. Mais franchement, j'ai envie de laisser la parole à Victor parce qu'il n'aime pas du tout ce joueur. Moi, je l'aime bien, Tony. Donc, vas-y, Victor.
Alors, non, je sais que je suis le seul ici à ne pas aimer Tony. Je crois que Grégory aime bien le Kadarius. Non, tu n'aimes pas le Kadarius ?
Oui, si, j'aime beaucoup le Kadarius, Tony.
Donc voilà, je suis le seul à ne pas l'aimer. Voilà, je pense que c'était la troisième meilleure fusée derrière les deux Moore. J'arrive pas. En fait, les gens s'enthousiasment toujours quand il y a un gadget qui sait un peu tout faire. Sauf que quand tu sais tout faire un peu moyen, tu sais rien faire excellemment. C'est le Calvin Chesson offensif.
Oh non.
Bon, on va reprendre la main.
C'est
Tyreek Hill, en fait. C'est ce type-là de joueur.
J'arrête de troll.
C'est Tyreek Hill ou Tavon Austin
Ouais, c'est...
Ah ben ça va dépendre s'il va réussir ou pas, puisque Tavon Austin, oui, il avait le même potentiel, mais malheureusement, il n'a pas réussi. Mais c'est
vrai,
ce type
voilà,
de joueur qui est très électrique.
C'est vrai que moi, j'y crois moins, mais c'est une fusée. C'est une fusée et en soi, Daniel Jones sera très content, je suis sûr, d'avoir une nouvelle cible.
J'aurais dû reformuler. Est-ce que tu as peur de l'affronter deux fois par an ?
Ah non, clairement pas, non. Je vais reposer la question.
Est-ce que pour toi, il est meilleur que Jalen Reagor ou pas ?
Oui, ah bah oui.
Ah d'accord, ça me rassure déjà.
Largement.
J'ai eu peur.
Grégory, convaincu ou pas ?
Alors, écoute, sur l'histoire des mains irrégulières, moi, je veux bien entendre. Alors, il y a eu un senior ball qui a joué contre lui, puisqu'en effet, lors des entraînements, on l'a vu commettre des drops assez particuliers, parce que je n'ai pas dans l'idée que tout au long de la saison, alors, on va me dire, il a joué beaucoup en gadget, beaucoup sur des tracés courts, sur des jet sweeps, etc. Sur des jeux où il récupérait le ballon principalement dans le backfield. Mais j'ai pas dans l'idée que les drops ça a été sa marque de fabrique du côté de Florida. Moi, je le dis, alors encore une fois, on va penser que je m'intéresse, la référence me vient avant tout de l'université. Il y a un côté Percy Harvin, je trouve, dans Kadarius Toney, en moins bon, selon moi, quand même, peut-être pas exagéré, mais il y a quand même ce potentiel, encore une fois, à casser des plaquages, à être vraiment présent et dangereux dans les zones intermédiaires, à se faire oublier constamment. Et aller chercher les premières tentatives. C'est ce qu'on demande à des quarterbacks mobiles aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi des quarterbacks. Et encore une fois, quand on voit la cote, par exemple, d'un Brandon Ayuk l'année dernière ou de ce genre de profil-là, c'est ce que recherchent de plus en plus les franchises pour avoir avant tout beaucoup de vitesse. Et je pense que Kadarius Toney est capable de le faire bien plus, à mon sens, qu'un Elijah Moore, qui a ses qualités également, mais qui, je pense, n'a peut-être pas le volume que peut avoir Kadarius Toney à l'échelon supérieur. C'est mon avis, je le répète, mais Kadarius Toney, j'aime bien. Ça me paraît un peu haut pour un 20e choix. Après, pour remplacer un Sterling Shepard, par exemple, qui sera en fin de contrat dans un an, c'est pas non plus le choix le plus farfelu, à mon sens.
Après, pour compléter la question de Alain, vu la gueule probable de la défense des Eagles, t'inquiète pas que même s'il est moyen, il fera 90 yards. Hein. Faut absolument pas s'inquiéter là-dessus. Hein.
C'est autre chose en effet. Vivien fait remarquer sur le chat que vous êtes encore 460 insomniaques à 4h48 du matin. Un grand bonjour à tout le monde évidemment, et ça nous fait hyper plaisir que vous soyez là à nous suivre. On entame doucement la dernière partie, la troisième partie de cette draft. On va annoncer le choix 21 ensuite. On passera dans la dernière ligne droite. Messieurs, les Colts sont donc...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.